Sud Radio, il est 21h. Sud Radio.
Parlons vrai.
Tout de suite, les informations.
Bonsoir à tous. La pagaille demain dans les aéroports français, même si les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève. De nombreuses perturbations sont attendues du côté de Marseille, avec près de 65% des vols supprimés, 75% à Orly, 55% à Roissy, 50% à Nice. À l'origine de ce mouvement de grogne, une réforme du métier de contrôleur aérien et la remise en cause des avantages sociaux des aiguilleurs du ciel. La menace d'une grève pèse toujours sur le pont de l'Ascension. Au moins 2 millions de bouteilles de Perrier ont été détruites par le groupe Nestlé. C'est ce que révèle ce soir Le Monde. En cause, la dégradation de la qualité de l'eau dans l'un des 7 puits de son usine du Gard. L'entreprise évoque une déviation microbiologique ponctuelle apparue à la suite du passage de la tempête Monica qui a frappé le sud-est de la France le week-end du 10 mars dernier. Le Hamas a diffusé aujourd'hui sur sa chaîne Telegram une vidéo d'un des otages israéliens qu'il a enlevé lors de son attaque du 7 octobre. Il s'agirait de Hersh Goldberg Pauline, enlevé lors du festival de musique Nova. Le jeune homme de 23 ans fait référence à la fête juive de Pessah qui a commencé lundi soir. Il s'adresse au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il lui demande de penser aux personnes captives à Gaza. Selon l'agence France Presse, 129 personnes sont toujours retenues par le mouvement palestinien. Retour en France avec la signalétique pour les JO progressivement déployée dans les transports parisiens. Elle indique les stations situées non loin des sites des épreuves comme le Parc des Princes ou le Grand Palais et précise les stations qui resteront fermées du début à la fin de l'événement telles que Concorde, Champs-Élysées, Clémenceau et Tuileries. Et puis l'OM va arborer un maillot collector à l'occasion de la réception de l'OGC Nice en match en retard de la 29e journée de Ligue 1 ce soir. Marseille a décidé de mettre à l'honneur le continent africain sur lequel le club phocéen compte de nombreux supporters. Un maillot bariolé sur lequel sera également apposé le logo OM Africa. Très bonne soirée à notre écoute.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Un metteur en scène a eu du nez quand il vous a engagé dans Cyrano. Roxane vous a ouvert bien d'autres portes à la scène comme à la ville, à commencer par celle d'Armoire à Pharmacie que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Anne Brochet.
Bonjour Jacques.
Alors c'est vrai qu'on vous retrouve aujourd'hui avec ce livre « L'armoire de vie » chez Albin Michel qu'on va évoquer au cours de cette émission. Le principe des clés d'une vie, c'est votre parcours à travers des dates clés. Et c'est vrai que vous avez un parcours totalement atypique, donc on va évoquer. Et la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre carrière et dans votre vie surtout. C'est le 22 décembre 1979, le jour du premier épisode de la diffusion de ce feuilleton. Dame de la Côte, Sleeping, Dagoon, le générique d'un feuilleton qui est culte pour vous, je crois.
Absolument. C'était un grand moment. C'était des grands moments de télévisuels. Oui.
C'est-à-dire que ce feuilleton, ça a été un choc, ça a été un déclic pour vous.
Oui, je pense que j'ai eu une émotion qui était une émotion d'adolescent où j'avais l'éveil, je pense, de l'empathie en même temps que de la, on va dire, d'une sorte de sensualité que je ne devinais pas de moi. Et donc, tout ça a été mélangé et j'ai effectivement vécu une sorte de fusion avec cette histoire, avec ces personnages.
Avec ces trois familles. Langue,
ouais.
Et c'est vrai que vous...
Je ne suis pas la seule. Hein.
Non, mais en même temps, vous vous déguisiez même en personnage du Dame de la Côte à l'époque, avec un chapeau, le chapeau de votre grand-mère.
Oui.
C'est vrai?
Oui, j'ai demandé à Nina, j'avais un chapeau avec lequel je me déguisais beaucoup plus jeune quand j'avais 10 ans pour faire My Fair Lady. Je jouais donc Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Et j'ai gardé ce chapeau de ma grand-mère qu'elle avait acheté aux Galeries Lafayette, parce qu'on avait le même goût des Galeries Lafayette, chose que j'apprendrai des années après sa mort. Et j'avais son chapeau Galeries Lafayette et j'ai demandé à Nina, je lui ai pas dit que c'était un chapeau Galeries Lafayette, mais j'ai demandé si je pouvais le porter pour une scène et elle m'a dit oui. Tellement heureuse de reporter ce chapeau 30 ans, avec 30 ans d'écart.
Alors, il se trouve que Nina Companès était une reine de la saga. Ce qu'on oublie, c'est que son père a été le scénariste de Casque d'or, un film célèbre, et elle a appris son métier en écrivant 12 films avec Michel Deville, metteur en scène réputé.
Absolument. C'était une grande, grande travailleuse et très, très, très talentueuse femme.
Et il se trouve qu'en plus, dans ce feuilleton, débutait Fanny Ardant. Je ne sais pas si vous le savez.
Je pense que c'était... oui, je connais...
Ah oui, il se trouve que c'est comme ça que François Truffaut l'a repérée et l'a fait tourner et puis a eu une grande aventure avec elle.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce feuilleton, vous le regardiez, je crois, à la télévision. Vous aviez le droit de regarder à la télé, je crois, le samedi soir.
Non, j'avais le droit le mardi, le vendredi, le samedi, le dimanche.
Ah, quand même. Et quand vous regardiez ce feuilleton, personne ne devait parler à la maison.
Il ne fallait pas faire de bruit. Mon fils, il a fait la même chose avec un feuilleton dont j'ai oublié le titre. Donc, c'est pas du tout de la même génération. Et effectivement, il avait à peu près le même âge. Il regardait quelque chose tous les soirs. Et on n'avait même pas le droit de faire craquer le plancher. Et donc, on est assez...
C'est assez curieux, hein. Et le plus beau, c'est effectivement que vous avez rencontré Nina Companès beaucoup plus tard. Oui. Ce que vous n'imaginiez pas quand vous êtes née à Amiens et que vous avez grandi dans cette maison familiale qui était celle de votre grand-mère.
Non, celle de ma grand-mère, c'était à Valmondois.
Oui, dans le Val-d'Oise. Vous êtes née à Amiens, oui. Mais vous n'êtes pas picarde.
On va dire que je suis valdoisienne d'amour, mais je suis née à Amiens.
Alors, vous avez, je crois, grandi à Anne-Brochet dans cette maison jusqu'à 14 ans et vous étiez marquée par la vue qui donnait sur une église.
Non, alors ça c'est deux maisons. Le week-end, j'allais chez ma grand-mère,
oui.
Qui était donc à Valmondois et c'était un endroit d'une grande, grande poésie. Et j'ai eu la chance d'être inspirée, d'aller très régulièrement dans cette maison qui était un moulin. Mais la maison devant l'église, ça c'était notre chance, c'était la maison de la semaine, c'était la maison chez mes parents.
Et la vue de l'église vous fascinait ?
Ouais, c'était un théâtre.
C'est-à-dire ?
On avait vraiment, on était complètement devant l'église, donc on assistait à tout, mais à la maison.
Et c'est le cas aussi de Jean Poiret, je ne sais pas si vous le savez, quand il était enfant, son appartement familial donnait sur l'église du 7e arrondissement, et il voyait les enterrements. Et il est tellement fasciné par ça qu'au départ, il a songé à travailler dans le monde des enterrements, à être croque-mort.
Ah oui.
Oui, c'est étonnant, hein. C'est comme quoi les choses d'enfance. Et puis donc cette maison du week-end, effectivement, il y avait un moulin et ce moulin est lié à une chanson.
Comme un manège de lune avec ses cheveux d'étoiles.
Les moulins de mon cœur de Michel Legrand qui a eu un Oscar pour cette chanson dans l'affaire Thomas Crand. Et les moulins, vraiment, c'est un souvenir d'enfance très important pour vous, Anne Brochet.
Oui, oui. Comment dire, c'était une maison, il y avait de l'eau qui passait sous la maison.
Oui.
C'est incroyable.
C'est ça.
C'est tellurique, en fait, d'être sur une maison où de l'eau, des torrents coulent sous la maison, c'est fantastique.
Et ce moulin était très ancien, je crois que votre grand-père s'en occupait.
Mon grand-père était meunier de génération en génération. Ça s'est arrêté avec mon père qui est devenu professeur.
Oui.
Mais.
Mais votre père a quand même été meunier.
Non, mon père, il aidait.
Il aidait, c'est-à-dire.
Oui. Oh, mon père, il aidait le dimanche ou en vacances, mais il a pas repris l'entreprise familiale. Non.
Vous avez des
souvenirs. Arrêté.
Vous avez des souvenirs de ce moulin parce que des moulins, il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui. Vous avez...
Énormément, oui. Oui, parce que je l'ai connu jusqu'à mes 14 ans, donc j'ai vraiment le temps de forger ma mémoire. Donc je me souviens très bien des pièges, je me souviens très bien des odeurs, je me souviens très bien des parfums, du bruit assourdissant de la turbine. Oui.
Ça n'existe plus les moulins comme ça aujourd'hui.
Non, ben, je crois que c'était le. Il est répertorié comme un des derniers moulins, en tout cas du Val d'Oise, à avoir produit une farine dite traditionnelle.
Oui, aujourd'hui, ce sont de grandes usines. Donc, votre père a été professeur, je crois, dans un collège, et votre mère aussi, elle enseignait les sciences naturelles. Mm-hmm. C'est deux choses très différentes.
Absolument. Mon père est littéraire et ma mère était beaucoup plus pragmatique.
Et scientifique.
Oui, oui.
D'ailleurs, vous avez été dans sa classe pendant une année ?
Deux ans.
Et c'est les sciences naturelles, c'était compliqué. Il y avait des souris à disséquer.
Non, moi, ça s'est arrêté. Les souris, elles... Comme je le raconte dans l'armoire de vie, la petite souris était asphyxiée au coton de la salle de bain, mais dans un petit pot.
Oui. Elle pouvait comme ça mourir et être disséquée le lendemain sans souffrance.
Oui, mais nous, j'étais au collège, ça s'est arrêté la dissection des souris.
C'est dur quand même d'avoir sa mère comme professeur, non ?
C'est pas agréable, mais oui, c'est pas agréable. Je pense que ça n'a les parents, les enfants de profs n'ont jamais de souvenirs très positifs d'être dans la classe de leurs parents.
On l'appelle madame dans ces cas-là ?
Je sais plus, c'était un peu pénible. Ben, on se sent marginalisé immédiatement.
C'est vrai, parce que les copines savent que c'est votre maman.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais, c'est pas facile.
Je suis la fille du prof, quoi.
C'est pas terrible. Alors, dans ces années-là, il y a les livres scolaires, mais il y a aussi un livre qui vous a marqué, Anne Brochet, c'est L'étoile mystérieuse de Tintin.
C'était surtout les deux premières pages.
Ah ouais, bon?
Que je regardais comme... Ma mère avait des livres de sciences naturelles avec beaucoup de maladies, tout ça, et j'adorais aller regarder tout ça, me faire des frayeurs, et j'avais la même chose avec Tintin, parce que je trouvais ça effroyable, ces deux premières pages de fin du monde.
En même temps...
Je ne pouvais pas m'empêcher d'aller regarder tous les ans.
Tous les ans?
Oui. En espérant que ça avait changé.
Oui, maintenant ça n'a pas changé, mais enfin, le monde est toujours là. Mais surtout, il faut savoir que L'étoile mystérieuse est née en 1941, et si Hergé a fait sa première histoire de science-fiction, c'est que c'était le seul moyen d'échapper à la censure allemande. La science-fiction n'intéressait pas l'occupant. Et c'est pour ça qu'il a créé cette histoire à ce moment-là.
C'est très intéressant, merci Jacques.
Alors, il se trouve aussi qu'à partir de 14 ans, le moulin est vendu, la maison est vendue, elle est vendue à Lancan en plus, je crois.
Où ?
Elle est vendue à la bougie, ou elle est vendue d'une manière particulière ?
Oh, je ne sais rien.
Voilà.
Peut-être que vous savez mieux que moi. Non, je ne crois pas.
Et vous vous installez dans une grande maison qui est très différente et beaucoup moins pleine de souvenirs avec vos parents.
C'est l'adolescence.
Oui. Donc ça ne pose pas de problème.
À l'adolescence, on est centré sur soi. Ça tombait bien.
Et vous avez un problème à l'époque, vous avez toujours aujourd'hui, vous êtes incapable de distinguer la droite de la gauche. Mm-hmm. C'est assez particulier.
Mm-hmm.
C'est-à-dire
je ne sais pas où est la droite et la gauche.
Jamais. Non. Comment vous faites pour vous repérer?
Je m'imagine en train d'écrire.
Et ça marche comme ça?
Oui.
Alors, le bac se passe, mention passable, vous étiez une élève correcte, mais sans plus.
Oh, il fallait que ça passe, oui.
Ouais. Et finalement, les études ne vous intéressaient pas? Déjà, le spectacle vous intéressait?
Oui, je pense.
Depuis toujours. Je crois que dans votre chambre d'enfant, il y avait des posters d'Isabelle Adjani.
Il y en avait un.
Hein? Adela, je crois.
Oui, Isabelle Adjani Brochet.
Pourquoi celui-là?
Parce que je voulais avoir la même coiffure.
Et il y avait aussi Gérard Philippe dans Le Diable au corps.
Oui.
Pourquoi?
Mais parce que un mardi soir, on regarde Le Diable au corps en famille. Il y avait une scène comme ça où Micheline Prel réchauffe ou essuie avec une serviette éponge, une serviette de bain. Gérard Philippe qui avait des gouttes d'eau de pluie qui tombaient sur ça. Si je me souviens bien, je ne l'ai jamais revu. Hein, et je trouvais ça extrêmement troublant. Je crois qu'après, ils s'embrassaient, quelque chose. Mais c'était très, très, très fort. Et donc après, oui, il y avait Gérard Philippe. Donc, juste avant qu'il ne roule au bord de la cheminée, il était encore dans un imperméable avec l'eau qui tombe sur lui.
Ah, c'est les images d'enfance qui vous marquent. Hein. En tout cas, il y a d'autres images qui vous ont marqué et qui ont marqué le public. On va les évoquer à travers une autre date, le 25 novembre 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Brochet.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ? » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières. Bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Care Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Care Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source, l'Automobile Magazine 2023.
Sud Radio Narbonne.
104.7.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Brochet, comédienne, romancière. Nous parlerons tout à l'heure de votre roman, L'Armoire de vie, chez Albin Michel, un roman étonnant, dont le principe est lié aux armoires à pharmacie. Alors, on a évoqué vos débuts dans le Val d'Oise, votre envie de devenir comédienne. Et le 25 novembre 1986, c'est votre première télé avec ce film. Masque de Claude Chabrol. Il se trouve qu'il y a un reportage dans C'est encore mieux l'après-midi de Christophe de Chavannes pendant le tournage du film. Et on vous voit exactement 15 secondes sous un chapiteau à la cantine entre Philippe Noiret et Claude Chabrol. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, oui, oui. Non, l'émission, non, mais la cantine, oui.
Oui, parce qu'avec Chabrol, les films, c'était la cantine.
Oui, 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 oui.
C'est-à-dire que ça se passait comment, la cantine? C'était vraiment... c'était par la grande bouffe, mais pas loin.
Et franchement, moi, j'avais 19 ans, donc j'étais moins portée sur le plaisir de la table que Claude Chabrol, mais c'était surtout un homme qui avait une gourmandise de raconter des histoires, évidemment, que la table, que la cantine soit généreuse, mais c'était surtout quelqu'un qui s'amusait, qui était très joueur.
Oui, et l'origine d'ailleurs de son appétit, c'est ses jeunes années, ses très jeunes années, quand il était bébé, on lui a donné, pour compenser diverses carences, du sang de bœuf dans le biberon. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir de l'appétit. C'est fou, hein? Il me l'avait un jour raconté. Donc, dans ce film, vous jouez, la filleule de Philippe Noiret, qui incarne un présentateur de télévision. Débuter au cinéma ou presque avec Philippe Noiret, c'est quand même pas mal, Anne Brochet.
Oui, c'était bien.
En plus, c'était quelqu'un de très précis. Il fallait jouer avec lui. Il avait beaucoup d'humour, mais il avait une grande précision.
Oui. Moi, c'était bien. Moi, j'étais comme ça aussi.
Oui. Et ça se passait comment avec Noiret et Chabrol? Vous avez pas un peu peur à 19 ans de...
Oui, c'était pas ma... Comment dire, j'étais très impressionnée. C'était pas ma génération. J'étais très respectueuse et c'était très bien ainsi.
Et ça, le film a bien marché et vous a révélé, à votre grande surprise.
J'imagine. Non, je n'étais pas surprise. J'avais des préoccupations de jeune femme. Donc, je n'avais pas une attente de box-office sur... quand on a 20 ans, on croit qu'on a 20 ans pour 1000 ans. Donc, ce n'était pas très grave pour moi que ça marche ou ne marche pas. J'étais déjà sur d'autres projets à ce moment-là.
Oui, alors, ça avait commencé, je crois, au conservatoire d'Amiens, où vous avez fait quelques mois avant d'aller à Paris.
Oui, peut-être un an d'ailleurs.
Oui. Oui. Et c'était, on apprenait quoi le conservatoire d'Amiens? Vous aviez envie de faire ça?
Je crois que j'ai fait une scène de Ondine de Giraudoux.
Oui.
J'ai travaillé Ondine. Et je crois qu'ensuite, quand j'ai joué, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Odile et l'eau, que j'ai joué l'année dernière et que je continue à jouer l'année prochaine et dans 2 ans. Odile est venue de Ondine. Donc en fait, mon personnage de mes 16 ans au conservatoire d'Amiens est devenu un personnage de mes 55 ans.
Il se trouve aussi que vous aviez envie de faire du théâtre et que le conservatoire d'Amiens, c'était le plus simple au départ.
Je n'avais pas du tout envie de faire du théâtre. Je voulais partir d'Amiens, je voulais avoir une vie... libre, une vie bohème, j'avais une idée de vie, je voulais être libre, et donc c'est tout. J'étais jamais allée au théâtre, et donc j'avais pas d'idée de théâtre, je voulais être un personnage de Nina Campanese.
Et justement, je crois que c'est un copain qui s'appelait David, qui vous a dit, mais tu sais qu'il y a un conservatoire à Paris? C'est né comme ça, votre envie?
Non, c'était une élève du conservatoire qui s'appelle... Je ne sais pas.
Peu importe.
Et elle m'avait donné un dépliant, un prospectus, pardon, de l'école Florent. C'est ainsi que je suis allée faire un stage à l'école Florent quand j'étais en terminale. Ouais.
Et ensuite, il y a eu le conservatoire. Et le conservatoire, vous avez rencontré un professeur exceptionnel qui est Michel Bouquet.
Oui.
Ça, c'est avoir Michel Bouquet comme professeur, c'est un privilège.
Oui.
Il était très précis, même presque trop précis pour vous.
Je pense que ça fait partie de la maturité. Je pense qu'il faut avoir une maturité pour écouter Michel Bouquet et comprendre sa profondeur et son intelligence incroyable et sa sensibilité unique, mais... Moi, j'étais au spectacle, parce que voilà, j'étais au spectacle de Michel Bouquet. Je comprenais, je pouvais deviner sa profondeur, mais j'étais surtout, je l'écoutais comme une enfant.
Oui, et en même temps, il m'a un jour raconté que quand il ne parvenait pas à trouver le ton exact pour un rôle, il pouvait tout casser autour de lui tellement il était énervé. Mais en même temps, je crois qu'il a cru en vous tout de suite, immédiatement.
Oui, on s'est bien entendu.
Il a pensé.
Il y avait beaucoup d'affection. Oui. Ça, c'est important.
Et puis, il pensait que vous aviez quelque chose d'important à jouer dans le monde du spectacle. Alors, c'était pas votre titre d'homme. Je crois que votre titre d'homme, votre modèle, c'était plutôt Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer.
Non, ça, c'était plus avant. C'était quand je voulais aussi être un homme et aussi être une femme. C'était l'époque de Nina Companese. Un acteur qui m'éblouissait ou une actrice qui m'éblouissait. Là, en l'occurrence, c'était Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. J'étais sûre que personne ne l'avait vu. Il n'y avait que moi qui avais compris ce qu'il faisait. Oui. Ce qu'il faisait était prodigieux. Je pense que personne d'autre ne... Parce que c'était... Je l'avais vu sur une cassette, je crois, chez mon cousin, à Créteil. Donc j'étais sûre d'avoir le secret pour moi.
De Niro est un des hommes les plus extraordinaires qu'on puisse connaître, notamment dans le cadre du secret. C'est-à-dire qu'il se cache tout le temps, il change le visage. Et moi, je me souviens d'un festival de Cannes où il y avait un concours de sosie. Il y avait 12 sosies, dont le sosie de De Niro. Le public venait demander des autographes à tout le monde, sauf au sosie de De Niro, qui était le vrai. Et personne ne l'a reconnu. C'est extraordinaire. Alors ensuite, Masque vous a ouvert d'autres portes. Il y a eu par exemple La Maison assassinée de Georges Lautner. Ça aussi, ça a été un grand souvenir.
Très.
Pourquoi ?
Parce que c'était joyeux, parce que c'était du travail, parce que c'était constructif, parce qu'il y avait des acteurs et des actrices incroyables. Il y avait vraiment un casting d'une richesse et d'une diversité. C'est des gens qui venaient de tout horizon confondu. Ça, c'était la gageure de Georges Lautner.
Oui. Et il y avait Patrick Bruel comme partenaire, qui n'était pas encore le roi de la chanson avec la Bruelmania.
Ça il chantait déjà
oui,
bien.
Mais il n'y avait pas encore la Bruelmania. Ça s'était passé comment avec Bruel ?
Très très bien, c'est un très très bon acteur.
Oui, et puis qui protège en plus, qui vous fait confiance, non ?
Oui, il était bienveillant.
Et est-ce qu'on imaginait qu'il a fait une carrière comme il l'a fait aujourd'hui, parce que c'était ses débuts presque.
Je pense pas que c'était
super. Il jouait depuis 4-5 ans, mais c'était pas encore ses grands rôles et sa grand succès dans la chanson.
Ah d'accord. Moi, je suis perdu dans le temps, hein, Jacques.
Alors justement, remontons le temps avec la bande originale de ce film qui vous est chère. Cyrano de Bergerac, Roxane, alors là, ça vous a marqué à vie?
Non, ça a marqué les autres, mais pas moi.
Comment c'est arrivé? Comment vous vous êtes retrouvé à jouer, à donner la réplique à Gérard Depardieu dans ce film de Jean-Paul Rapneau?
Ça a marqué, on va dire que, comment dire, les émotions que les gens éprouvent pour mon personnage ou pour le film. Je vais dire que c'est plus compliqué pour moi parce que le film, quand je le regarde, j'ai des souvenirs, ce que les spectateurs n'ont pas. Moi, j'ai des souvenirs de quelque chose qui a été vécu. C'est-à-dire, quand je regarde une scène, je sais qui a maquillé, où était ma caravane de maquillage, dans quel hôtel j'étais. J'ai vraiment des souvenirs concrets. Donc, mon émotion ne peut pas être la même. Ça m'est arrivé de voir Cyrano de Bergerac une fois où j'ai tout oublié.
Ah bon ?
Oui. Mais moi, je me vois, donc, je me dis, voilà, je suis vraiment exceptionnelle, c'est impossible, quoi. Donc, ce que j'ai vécu ne peut pas être ce qu'on vit.
Alors, il se trouve aussi que...
Mais ça a été une sorte de tremplin, bien évidemment. Hein.
Vous avez eu une nomination au César, vous avez eu un prix européen et vous avez eu le prix Romy Schneider. C'est quand même un moyen de monter au sommet de l'affiche. Et un tremplin, effectivement. Ça vous a touché, tous ces trophées, ces Césars, vous avez eu un seul César ensuite, mais vous avez été nommé deux fois avant de l'avoir. Ça vous a perturbé
de ne pas... Je m'en souviens plus.
Ah si, vous avez été nommé deux fois.
Ah, mais puis... je vous crois.
Oui.
Mais je ne me souviens plus de ce que ça m'a fait. Peut-être mes parents, ils devaient être très contents. Et ça,
oui.
C'était bien.
Mais enfin, vous avez fait d'autres choses ensuite. Et on va en parler à travers une autre date, le 27 juin 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Brochet.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Super Diète,
Le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Superdiète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Superdiète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous aider à avoir une peau nette, choisissez le zinc Superdiète, une formule 100% végétale sans additifs. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Axe-les-Thermes
103
Sud Radio. On retrouve Jacques Pessis et les clés d'une vie dans quelques instants sur Sud Radio.
De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
Mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure, de mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts je te donne la totalité. Tous mes défauts j'en ai pas en réalité.
Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, moi je te donne ma totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Brochet. Nous parlerons tout à l'heure de L'Armoire de vie, votre nouveau roman chez Albin Michel. On a évoqué vos débuts, ce fameux Cyrano de Bergerac, où vous êtes Roxane, qui vous a propulsé en haut de l'affiche. Et j'ai trouvé une autre date, le 27 juin 2013, un documentaire sur Arte qui est lié plus ou moins à cette chanson.
En l'apercevant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive.
Le petit bateau de pêche de Brassens, qui est une des chansons d'enfance préférées de Brassens, signée Paul Misraki. Et si je parle de pêche, parce que ce jour-là, sur Arte, est diffusé un documentaire que vous avez réalisé, Brochet comme le poisson. C'est assez... Et ça, je crois que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps.
Oui. J'avais envie de tournicoter autour de mon nom de famille et des résonances animalières que j'ai traînées pendant des années. Et finalement, j'ai réussi à trouver la direction et l'attitude à adopter pour pouvoir traiter de ce sujet en parlant du cas des autres.
Alors, vous avez toujours considéré dans vos jeunes années qu'avoir un nom d'animal ou de poisson pouvait rendre vulnérable.
Oui.
Pourquoi ?
C'est comme à l'école, quand on a un nom d'animal, on est beaucoup plus, on est un peu sur la touche, hein. à la maternelle, en première, non pas en première, à la maternelle, en école élémentaire, on est tout de suite associé à un animal. Alors déjà, dans les couloirs, on accroche ses porte-manteaux à une baleine ou à un lapin. Donc, si en plus, on est déjà soi-même un animal, on a déjà un mental beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus sensible au monde animal. Et j'ai vu ça en faisant ce documentaire, quand je me suis approchée des gens qui avaient un patronyme animalier, ils ont une relation immédiate à leur animal, si on veut dire, aux animaux en général.
Mais le brochet a la réputation chez les pêcheurs d'avoir une force et une vitalité exceptionnelle. C'est vrai que c'est quand même pas n'importe quoi.
Ouais. Un jour, j'ai rencontré un monsieur, il était absolument exquis. Il me demandait si, en fait, brochet, c'était un nom que je mettais, c'était mon nom de scène. Je me dis, comment voulez-vous que j'ai pu inventer brochet comme mon nom de scène? Mais parce que brochet, ça vient du mot grec, je sais pas trop quoi, qui veut dire. Et c'était que les adjectifs les plus classes qui puissent exister.
Et je crois qu'on a capturé récemment en Allemagne un brochet d'une taille record qui était d'1,50 m.
C'est peut-être ça.
C'est énorme. Oui. Alors, donc, dans ce film, vous vous êtes demandé ce que faisait Monsieur Pigeon, Madame Le Rat ou Mademoiselle Vaux, c'est ça?
Oui.
Il faut les trouver encore, ces gens-là.
Oui.
C'est pas simple.
Non, c'était pas simple parce que les animaux sont. Les gens, voilà, on va appeler ça les gens au patronyme animalier, les gens qui ont un rapport à leur animal sont assez méfiants.
Oui, et donc vous vous avez approché en disant « je m'appelle Brochet, et vous, Pigeon ?»
Non, je crois que c'est Franck Leboeuf. À partir du moment où Franck Leboeuf a bien voulu, il m'a porté bonheur. Franck Leboeuf m'a ouvert la porte à tous les autres animaux.
C'est extraordinaire.
Vraiment, il m'a énormément aidé.
Il se trouve d'ailleurs que les handicapés patronymiques souvent changent une lettre de leur nom à l'état civil pour pouvoir ne plus avoir ce problème-là. C'est le cas de Monsieur Crétin ou de Monsieur Tata. Et c'est réglé autrement. Et l'état civil accepte ce genre de choses parce qu'ils se rendent compte du problème.
Et c'est pas la même chose d'être associé à un animal. C'est autre chose.
C'est
pareil, oui. Ça touche pas du tout au même endroit.
Alors, à travers ce film, on a découvert, Anne Brochet, que vous aviez un sens de la comédie avec des scènes, notamment avec une responsable consulaire islandaise qui veut changer de nom. C'est autre chose. On a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas chez vous.
Moi, je le connaissais.
Oui. Mais vous n'en parliez, vous ne l'évoquiez pas, cette fantaisie.
Non, je crois qu'on m'a proposé des rôles qui correspondait à ce que je dégageais, c'est-à-dire quelque chose de nébuleux, d'un peu opaque, de mystérieux, de réservé, de froid. C'était certainement ce que je dégageais, mais c'était aussi ma façon de me protéger.
Alors que vous aviez une folie, une fantaisie en vous que vous ne vouliez pas montrer au départ.
C'est pas que je ne voulais pas la montrer, je pense que j'en avais pas la possibilité.
Et là, vous l'avez fait vous-même, et ça, c'est difficile peut-être de monter comme ça un film documentaire alors qu'on a été actrice autrement, non?
Non, parce que je pense que c'était un sujet qui plaisait, qui parlait tout de suite. Donc c'était pas très compliqué j'ai pas eu de mal, je dois le reconnaître, j'étais extrêmement gâtée, j'ai pas eu de mal à trouver des producteurs.
Oui, parce qu'en plus, vous évoquiez dans ce film, je crois, la filiation et les héritages.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est un sujet qui touche tout le monde.
Oui, évidemment.
Et ça a eu tellement de succès que vous êtes retrouvée sélectionnée au Festival du film de l'environnement.
Oui.
C'est une surprise.
Ah oui, mais j'ai été extrêmement touchée et la cause animalière est très importante pour moi. Donc effectivement, c'était... Je suis dans mon monde.
Voilà, la cause animalière, effectivement, quand vous...
Cause animale, pardon.
La cause des animaux.
Oui.
Et vous y êtes très attaché, comme Bardot et beaucoup d'autres. C'est aussi un sujet qui vous préoccupait à l'époque où on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, il y a une dizaine d'années.
Possible.
Qu'est-ce qui vous touche dans la cause animalière?
Je pense... Oh, c'est beaucoup de choses, mais... Pas très intéressant ce que je vais dire, c'est très 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 commun, moi j'ai du mal avec l'abattage.
Oui, entre autres, bien sûr.
J'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça.
Et vous avez combattu, vous avez en dehors de ce film défendu des causes ou...
Pas du tout, j'ai jamais défendu de cause.
Ouais.
Non.
Mais en tout cas, vous l'avez fait à travers ce film.
Ou je le fais à travers ma vie. Mais pas...
Alors, il y a le cinéma, la réalisation, il y a le théâtre. Et je crois que le théâtre, ça a commencé très, très tôt au Célestin à Lyon.
Oui, c'était mon premier travail, mon premier salaire.
Comment vous êtes arrivée là-dedans?
C'était le, J'étais au conservatoire. Ouais. C'était ma première année au conservatoire et Jean-Paul Lucet, qui était directeur des Célestins, m'a vu peut-être dans la sortie de la première année, m'a contacté pour jouer la Oberhaute de Audi Berthi.
Et vous êtes retrouvée à Lyon alors que vous êtes une toute jeune élève?
Oui.
Comment on fait pour faire le conservatoire et Lyon en même temps?
On boit des cafés au lait le soir. Oui. On appelle ses parents au téléphone.
C'est-à-dire que le matin, on est au conservatoire et le soir, on est à Lyon?
Non, j'avais une dérogation.
Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que vous avez fait des rôles très différents. C'est-à-dire que vous êtes passé du Cid à Bobigny, je crois, à David...
Non, c'est pas moi.
C'est pas... Il y a le Cid de... Vous n'avez pas joué le Cid? Vous avez joué partenaire de David Mamet,
oui,
à la Michaudière. C'était une... Et des pièces au rond-point. Ce sont des rôles très différents à chaque fois. C'est jamais le même personnage.
Oui, c'est... Oui. Absolument. J'ai ça au théâtre, j'ai cette chance au théâtre.
C'est-à-dire ?
De faire des rôles très différents.
Et à chaque fois, il faut se mettre dans le personnage, c'est pas facile. Mmh. Ça va encore.
C'est ça qui est bien. C'est de travailler à son personnage qui est amusant.
Et alors, il y a aussi, vous l'avez évoqué, c'est Odile Hélo au théâtre Gérard Philippe, qui est un spectacle que vous avez mis un seul en scène, que vous avez présenté comme une expérience aquatique. Vous étiez, je crois, dans le décor d'une piscine, oui, et en maillot de bain, ce qui n'est pas très cher comme costume. Ouais. Comment est né ce projet?
Le projet est né du fait que je voulais écrire un texte sur... un jour, j'ai tenu un journal de piscine municipale. Je voulais effectivement le proposer à une maison d'édition. Et puis, en fait, le théâtre me manquait terriblement. Et j'avais aussi un peu envie de me frotter à la chorégraphie. J'avais envie de bouger mon corps. J'avais pas forcément envie de faire de la chorégraphie, mais j'avais envie que le corps soit très, très mis en avant. Et donc, je me suis dit que ça serait bien que je travaille avec quelqu'un du monde de la danse. Donc, j'ai fait appel à Joël Bouvier. Et j'ai... je sais plus. Ouais, non, mais j'ai écrit un texte, oui, un seul en scène.
Un seul en scène, voilà. Qui était étonnant, parce que pourquoi la piscine municipale? Vous étiez fan des piscines municipales?
Ben, je le suis toujours.
Ça faisait partie de votre quotidien?
J'aime l'émotion d'une piscine municipale, j'aime les gens, j'aime ce qui se passe, j'aime ce qui m'arrive quand je nage, j'aime cette communion dans le bassin public et municipal, j'aime ça.
Il fallait en plus, non pas prendre une piscine, mais reconstituer l'idée d'une piscine sur scène. Oui. C'était pas simple.
C'est très, très beau.
Oui, mais
c'est très beau. Le résultat est exceptionnel.
Oui. Mais en même temps, ça vous a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu au public, puisque vous le faites régulièrement. Le seul problème, c'est monter en scène, car vous avez toujours le trac avant de monter en scène.
Ah non.
Non. Et vous pensez, je crois, quelquefois à des comédiennes, comme je crois qu'un jour vous avez pensé à Caroline Siol dans Robert Rosten, hein?
Ah oui, c'est vrai ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça?
J'ai cherché.
Avec pour Odile Hélo, j'ai pas le trac, mais j'ai l'impression que je vais partir, que je vais aller au tribunal.
Pourquoi?
Je sais pas, parce que c'est très. Une sorte de mise en danger d'être seule sur un plateau pendant 1h20. Et pourtant, c'est ce que je cherche, puisque personne ne m'a poussée à... Je me jette à l'eau tous les soirs. Mais c'est une épreuve... C'est heureux et très, très douloureux à la fois. Quoi.
Et, vous
et je pense à Caroline Siol quand elle l'interprétait, Marie-Antoinette. Et elle devait être soit sauvée, soit condamnée par spectateurs, me semble-t-il.
Oui, c'était Robert Rosten avait mis en scène ce spectacle, et à l'entrée, il y avait une boule noire et une boule blanche, et le public votait pour ou contre la mort.
C'est cinglé.
Et non, mais ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des Suisses qui arrivent voir le spectacle, ils disent « On est Suisse, on ne peut pas voter ». Ils n'ont pas pris la boule noire et la boule blanche, ce qui est extraordinaire. Alors, il se trouve aussi que vous ne supportiez pas le moindre bruit dans la salle. C'est-à-dire, si quelqu'un se déplace, vous avez besoin du silence autour de vous pendant que vous jouez.
Là, ça va. J'ai été plus intolérante.
C'est-à-dire?
Parce que quand on est sur un plateau, peut-être qu'on pense qu'on est très, très concentré, et on l'est, et en même temps, on a les pores de la peau qui captent... On capte tout ce qui peut se passer. Et effectivement, quelquefois, on peut être extrêmement concentré, extrêmement dans l'histoire et en même temps percevoir tout son, tout mouvement.
Et vous avez aussi songé, je crois, à devenir entraîneuse aquatique lorsque vous étiez aux États-Unis, car vous avez passé 5 ans aux États-Unis.
Oui.
Pourquoi les États-Unis ?
C'était une opportunité.
C'est-à-dire ?
J'avais la possibilité d'aller aux États-Unis.
Et vous avez passé 5 ans à la fois heureux et bohème ?
Bohème, ça c'est sûr. Heureux, plutôt pas mal. Et oui, c'était très 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 intéressant. Ça m'a beaucoup beaucoup plu.
Qu'est-ce que vous avez découvert ou appris aux États-Unis ?
Appris sur moi-même, j'ai fait un film qui s'appelle Rêve de mouette,
oui.
Que j'ai fait de façon totalement autonome, mais qui m'a construit parce que j'avais quand même besoin d'être occupée dans cette ville où je ne faisais rien. Et donc ça m'a structurée, comme c'était un sujet profond sur la mouette de Tchekhov.
Oui.
Ça, c'est ma vie à Los Angeles qui m'a permis de retourner au théâtre à Paris, en France.
Grâce à ce
film.
Et ce film, d'ailleurs, a été sélectionné au Festival d'Angoulême. Et c'est ce que vous n'auriez pas imaginé au départ. Vous ne l'avez pas fait pour être sélectionné dans un festival.
Non.
Finalement, tout ce qui vous est arrivé, c'est presque une surprise, une bonne surprise. Qu'est-ce que vous pensez de votre parcours de comédienne ? Vous en êtes heureuse, malheureuse ?
Oh, j'ai beaucoup d'affection pour la jeune femme que j'ai été, avec toutes ses qualités, avec ses défauts, avec ses bêtises, avec ses erreurs, avec les belles choses qu'elle a pu créer.
Vous avez fait des erreurs ?
Oh, je pense que j'aurais pu être un tout petit peu plus raisonnable, plus carriériste surtout.
Vous n'êtes pas du tout carriériste.
Pas du tout.
C'est votre vie qui vous intéresse avant tout.
On dirait que c'est ça, oui. C'est irrépressible. Ah. Mais si j'avais recommencé, j'aurais dit oui à des choses. J'aurais été beaucoup moins cigale.
Oui, mais vous ne regrettez pas d'avoir été cigale quand même.
Non.
Et puis vous faites d'autres choses, on va évoquer dans quelques instants votre livre à travers la date du 28 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Brochet.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Renew.
Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 € par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 € par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584 € après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Anne Brochet. Nous avons évoqué votre parcours depuis le début avec le théâtre, avec le cinéma, avec tout ce que vous avez pu faire en France et ailleurs. Et puis là, on va évoquer maintenant, à travers la date du 28 mars 2024, votre parcours d'écrivain, puisque vient de paraître L'Armoire de vie, qui est un roman assez étonnant. C'est une image qu'on traite rarement dans les livres, l'observation des armoires à pharmacie. Pourquoi ce sujet ?
Un objet que j'aime et depuis pas mal d'années. Par exemple, le journal de piscine, j'y ai pensé pendant 10 ans avant de m'y coller, entre guillemets, avec grand plaisir, qui a donné Odile Hello mon seul en scène. L'armoire de toilette, je voulais faire quelque chose depuis de nombreuses années.
Parce que c'est un objet mystère qui vous fascinait depuis votre enfance ?
Oui, oui, oui.
Pourquoi ? Il y en avait partout ?
Non, il n'y en avait qu'un, mais il y en avait toujours chez les voisins, chez les cousins, chez les amis de mes parents. Il y a toujours une armoire de toilette dans la salle de bain. Maintenant, beaucoup moins, mais avant, oui.
Et ça vous fascinait, enfant ?
Oui, oui, oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est tellement plein de secrets. Et c'est toujours et la même chose et jamais la même chose. Et c'est ça qui me fascinait. C'était toujours la même chose et jamais la même chose.
Et au départ, vous avez imaginé faire un livre de photos plutôt qu'un roman?
Oui.
Pourquoi?
Parce que j'avais déjà fait un livre sur des vitrines de magasins. J'avais déjà fait un autre livre sur un chagrin d'amour. Et je me disais peut-être que ça serait bien de faire des photos d'armoires de toilettes de gens. Et j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, 4. Et puis après, j'ai arrêté. Et je me suis servi de ces photos pour travailler le
roman.
Le roman.
C'est en même temps, à travers les armoires de toilettes de votre vie, de raconter votre parcours, de raconter votre enfance et l'âge adulte.
Au tout départ, après avoir renoncé, pour vous dire la vérité, Jacques, après avoir renoncé aux photographies, je me suis dit, bon, je vais refaire. Je faisais mon seul en scène de Odile Hello, mais je me disais, peut-être si j'arrive pas à trouver de producteur, je vais faire un seul en scène d'armoire de toilette. Et donc, en fait, le but, c'était de jouer sur l'espace, les souvenirs et le corps, toujours le corps, à grandir, à changer, à se coiffer et à avancer dans la vie, mais sur un plateau de théâtre. Et je ne l'ai pas fait, donc j'en ai fait un roman.
Et pour peut-être le faire un jour, parce que c'est un bon sujet.
Peut-être.
Mais et puis, en décor, c'est assez simple, une armoire de toilette, ça ne coûte pas très cher. Ah bon? Pourquoi?
Je ne suis pas sûre qu'un décor d'armoire de toilette soit ce qu'il y a de moins cher.
Alors, il y a aussi dans ce livre beaucoup de citations de pub, parce que la pub a été toujours très importante pour vous, Anne Brochet, c'est une réminiscence d'enfance.
Oui, c'est joyeux la pub. Et puis c'est le début de ça fait partie des jeux. Reproduire on reproduisait quelques scènes de films du mardi soir, des films des westerns du mardi soir, quelques scènes, surtout quand c'était doublé français, on reproduisait surtout des dialogues
avec votre frère.
Non, avec l'école, avec des camarades de classe. Mais les pubs, ouais, ça faisait aussi partie de la reproduction et de l'amusement.
C'est-à-dire qu'enfant, vous regardiez les pubs, et en même temps, vous vous demandiez quel produit était dans l'armoire de toilette familiale.
Oui, il n'y en a pas beaucoup.
Mais alors, c'est...
Ça, c'était parce que les produits d'armoire de toilette... C'était même avoir du banga ou du crunch, c'était être comme ce qu'on pensait être les autres, c'est-à-dire être dans la normalité.
Voilà, mais d'ailleurs, vous jamais...
C'est rassurant quand on est enfant d'être dans la normalité.
Vous n'étiez pas rassuré enfant, de ce côté-là?
Non, mais on était tout ce qu'il y avait de plus normal, mais un enfant veut être encore plus normal que normal.
Alors, dans ce roman, vous citez un nombre incroyable de marques et vous précisez dans le livre que votre éditeur n'a pas de partenariat avec ces marques.
Oui, oui.
C'est des marques qui vous ont marqué, justement.
Ou non, je m'en souviens, quoi.
C'est-à-dire
je m'en souviens. Pourquoi je me souviens de Mustela? Parce que c'est ma grand-mère qui était âgée et qui... comme pour garder de l'enfance en elle, mais inconsciemment, avait du lait Mustela, c'était assez merveilleux. C'est elle qui m'a initiée à ce lait. Ma mère m'a initiée au talc chlorane. Et je pense, le premier souvenir de parfum, c'est le talc chlorane.
Et en même temps, il y avait le coucher et la peur de dormir. Et il y avait justement l'armoire de toilette et le rituel avant de se coucher.
Mmh. Avec mon comment ça s'appelle, le verre à dents.
Exactement.
Ouais, le verre à dents, l'eau.
Et ça, c'était, ça vous rassurait?
Oui, l'eau me rassurait, ouais. Et puis le rituel, oui, le rituel du... Ma mère, elle le faisait pas, non, elle était occupée à d'autres choses le soir, mais mon père, donc c'était lui qui m'amenait mon verre, c'était un placebo, quoi, si je buvais un petit peu d'eau. Je dormais, c'était bien.
Mais ce qui est étonnant, c'est un sujet, Anne Brochet, qui nous concerne tous, qu'on a tous des souvenirs liés à des produits de toilette, mais ça n'avait jamais été traité dans un livre ou dans un roman.
Mmh. Oui, la gageure, c'était un peu de parler de ses propres souvenirs afin qu'on s'y retrouve au maximum, que le lecteur puisse s'identifier.
Il y avait aussi les savons. Je crois que les savons sont liés à la dernière semaine de juillet, notamment palme olive, oui. Chez votre grand-père paternel.
Oui. Mon grand-père maternel, oui. Ouais.
C'est, on retient de quelqu'un son odeur, son parfum.
Lui, c'est pas son parfum, il est associé, mon souvenir de lui est associé au palme olive. Oui. Parce que cette maison-là est teintée, les boules de cristal, c'était le savon palme olive. Oui.
Et puis, il y avait cette cape en tissu éponge, que vous avez eu beaucoup plus tard adulte, que vous avez gardée d'un tournage, je crois, et qui vous a servi dans votre salle de bain.
Non, c'était la cape de ma grand-mère, oui. Au moulin,
oui.
Et j'en ai hérité. Quand ma grand-mère a vendu son moulin, ils ont retrouvé la cape... Dans la penderie, et j'ai demandé si je pouvais la voir, et donc j'ai hérité de la cape de sortie de baignoire.
Il y a aussi des flacons de mousse qui vous ont fasciné, qui ont marqué votre jeunesse.
Non, pour moi, la femme idéale, c'était la femme au bain. La femme qui rentrait dans son bain moussant. Pour moi, c'était comme j'étais préadolescente, je voulais être cette femme-là, plus tard dans ma vie.
Drôle ça. Oui. Et puis il y a eu un rêve qui vous a marqué aussi, alors que vous ne les connaissiez pas, c'est une rencontre entre Daniel Auteuil et Emmanuel Béart.
C'est un vrai rêve, ouais.
C'est fou ça,
oui.
Parce que vous ne les connaissiez pas du tout.
Pas du tout.
Et en plus, leur histoire d'amour, je crois, est née quand ils ont tourné Mahon des Sources, et elle s'est concrétisée un peu plus tard quand ils ont tourné L'amour en douce. Mais vous ne le saviez pas, pourquoi Auteuil et Béart?
J'en sais rien.
Et après, vous les avez revus, vous leur avez raconté?
Non.
Je n'ai jamais vu. Un rêve d'enfance.
Non, c'est un rêve de jeune fille. Oui. Ça. Non, je vivais déjà à Paris. Oui. Mais je m'en souviens très bien. Il me conseillait de prendre de l'ophytose, oui.
Ouais, c'est encore un médicament. Alors, il y a aussi une chanson qui vous a marqué.
En écrivant les mots qui passaient par ma tête, comme le vent.
La Dame Brune, Barbara et Georges Moustaki. Vous savez comment est née cette chanson? Moustaki passait son temps chez Barbara, ils avaient une histoire d'amour ensemble, devant la télé. Il lui dit, écoute, t'es un feignant, fais autre chose, tiens, écris une chanson. C'est comme ça qu'il a écrit cette chanson. C'est vrai que ça vous a marqué, Barbara et la Dame Brune?
Ça me marque. Ce qui m'intéressait dans sa petite armoire de toilette, des armoires de vie, c'était de faire un peu une bande-son. Donc, il y a toujours de la musique à un moment donné. Il y a toujours une porte qui s'ouvre derrière moi avec une chanson. Et donc, en fait, c'est une sorte de... Il y a effectivement une traversée de vie à travers des armoires de toilette, mais il y a quelques chansons phares.
Toujours liées.
Oui, j'aimais bien la banque, qui est une petite bande-son. Ouais.
Et finalement, vous êtes un inventaire à l'après-vert au niveau des pharmacies. Je crois que vous vous souvenez d'absolument tout ce qu'il y avait dans les armoires à pharmacie, non?
L'armoire de toilette.
Avant ouais. La toilette, oui, ouais. Ça n'a rien à voir. Mais en même temps, il y a quelquefois de la pharmacie en dehors des produits hydratants ou des bains moussants.
Pas chez moi.
Juste
pas chez mes parents, non.
Il y avait juste ça. Il y avait un spray aussi avec la signature de Lynn Renault qui vous a marqué.
Oui, ça c'est mon ami Renault qui m'a offert un spray Lynn Renault. Et avec la dédicace de Lynn Renault sur le spray Elnette.
Et ça, oui. C'est le genre de choses qui vous touche. C'est assez curieux,
oui,
comme
j'aime
cadeau.
Bien. Oui, ça m'amuse.
Et il y a aussi le miroir de la salle de bain qui est très important pour vous parce qu'il est un reflet.
Oui, ce qui est touchant avec ces armoires de toilette, c'est l'armoire à trois faces avec ses petits tiroirs. C'est un objet très très complexe. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est un objet complexe. On peut ranger, on peut observer son visage sous toutes les coutures. On peut bouger les armoires, on peut bouger les miroirs et voir tout son visage en entier, même sa nuque.
Vous passez beaucoup de temps dans votre salle de bain?
Non.
Et c'est...
Mais qu'à l'adolescence, on est tellement centré sur soi, je crois. Hein, voilà, on est préoccupé par soi et son rapport au monde. Donc on a besoin de voir ce qui se passe, on a besoin de voir ce que les autres voient.
Vous êtes pratiquement un collab sur tous les produits existants dans les supermarchés, hydratants ou autres.
Ah non, je suis hors sujet.
C'est-à-dire ?
Ça m'intéresse plus.
Ah bon ? Votre roman vous a permis de... Ce sont des souvenirs, ça ne vous intéresse plus aujourd'hui.
Oui, c'est un peu aussi sur le consumérisme quand même. C'est la façon dont on garde les choses, on garde ça, on stocke, si jamais ça n'existe plus, on en prend trois au lieu de un. Après, c'est un rapport au temps aussi, une armoire de toilette, c'est-à-dire qu'il y a des objets qu'on consomme très vite, on a déjà plus de dentifrice. Il y a des objets, au contraire, des liquides, des désinfectants. Ça fait 15 ans que je le connais, celui-là. Il y a des trucs qui ne disparaissent pas et d'autres qui disparaissent trop vite. Donc, c'est comme la vie.
Oui, et la vie, justement, vous dites dans ce roman qu'il vous reste des tas de choses à accomplir, des tas de choses que vous n'avez pas encore faites. Apprendre l'italien, ranger les tiroirs de la salle de bain, lire beaucoup de livres. Ce sont vos objectifs d'avenir ?
Je peux apprendre le reste, c'est fait.
C'est fait. Et le roman, c'est une nouvelle vie pour vous, parce que vous en êtes à votre sixième roman. Vous n'auriez jamais imaginé aussi écrire des romans au départ, Anne Brochet.
Non, mais je ne suis pas étonnée, parce que c'est le théâtre et le cinéma, c'est la lecture qui m'a amenée au plaisir de... Je veux dire, Nina Companese et Les Dames de la Côte, c'est pas... que leur monde de sensualité et de souffrance, c'est aussi la façon dont elle a écrit les dialogues, qui étaient très très beaux. Donc j'avais quand même un goût pour le parler, qui est né du plaisir de la littérature.
Il a envie d'écrire.
Donc je pense que oui, c'est venu après l'envie d'écrire, et venu quasi naturellement.
Et un livre que vous écrivez avec votre modestie naturelle, je dirais sans vous faire mousser, si j'ose dire, puisqu'on parle des armoires à pharmacie.
De toilettes,
oui. Armoire de toilette qu'on appelle parfois armoire à pharmacie, d'ailleurs.
Je crois que l'armoire à pharmacie, c'est qu'une porte.
Ah oui, et là, c'est trois portes. En tout cas, vous ouvrez la porte sur ce sujet avec ce livre, L'armoire de vie, chez Albin Michel, et puis vous allez continuer à en écrire d'autres.
On verra.
En tout cas, merci de l'avoir écrit. Merci.
Merci à vous de m'avoir reçu et de l'avoir lu.
C'est un plaisir que je souhaite à beaucoup celles et ceux qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux sur Sud Radio. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Super Diète. Le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Super Diète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Super Diète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous aider à avoir une peau nette, choisissez le zinc Super Diète, une formule 100% végétale sans additifs. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio. Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Take me away from this impetuous world.